أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Mes chers soeurs, salam alaykoum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, comme je vous l'ai annoncé, nous allons parler aujourd'hui du prophète Uzair alayhi salam. Et nous allons partir de ce verset du Saint-Coran, le verset numéro 30 du Saint-Coran de la Sourate 9. Les juifs disent « Uzair est fils d'Allah » et les chrétiens disent « Le Christ est fils d'Allah ». Telle est leur parole provenant de leur bouche. Ils imitent le dire des mécréants avant eux. Qu'Allah les anéantisse, comment s'écartent-ils de la vérité ? Nous allons donc traiter de la biographie du prophète Uzair alayhi salam et nous verrons comment est-ce qu'il a été perçu par les juifs de l'époque, pourquoi et donc quelle est son histoire. Et nous allons, donc, comme vous le savez, il y a dans le Saint-Coran un certain nombre d'histoires de prophètes. Alors, il y a à peu près une vingtaine de prophètes qui sont mentionnés dans le Saint-Coran. Parmi eux, vous avez des prophètes comme le prophète Ibrahim, vous avez des prophètes comme le prophète Moussa, vous avez des prophètes comme le prophète Issa, ou même comme le prophète Adam alayhi salam, qui sont des prophètes qui sont mentionnés de temps en temps dans le Saint-Coran. Et on a beaucoup de détails de leur récit, de leur vie. Après, vous avez d'autres prophètes qui sont bien mentionnés dans le Saint-Coran, mais dont nous avons quelques épisodes, nous n'avons pas beaucoup de détails sur leur vie. Par exemple, nous avons le cas du prophète Lut alayhi salam, qui est mentionné parfois dans le Saint-Coran. Nous avons l'exemple du prophète Idriss alayhi salam, dont nous avions parlé dans un des madaris, et nous avons l'exemple du prophète Uzair alayhi salam. Donc nous avons quelques récits dans le Saint-Coran, mais nous n'avons pas sa vie en détail. Alors que quand on regarde l'histoire du prophète Uzair alayhi salam, elle est très peu mentionnée dans les madaris, dans les ouvrages que nous lisons, etc. Alors que si on regarde bien, sa vie est pleine d'enseignements et nous pouvons en tirer beaucoup d'exemples. Donc nous allons aujourd'hui parler de la vie du prophète Uzair alayhi salam et nous allons notamment voir quel est le concept de la résurrection puisque justement la résurrection étant un des piliers de notre foi, justement nous apprenons la résurrection par l'intermédiaire du prophète Uzair alayhi salam. Et toutes les religions du monde croient en la résurrection et traitent de la résurrection. Certains croient en la résurrection du corps, d'autres croient en la résurrection de l'âme, d'autres parlent même du fait que nos corps seront réincarnés, que nos âmes seront réincarnées et que donc c'est finalement la réincarnation étant en fait une résurrection de l'âme mais sous une entité différente. Donc finalement, le thème de la résurrection est quelque chose qui se retrouve dans toutes les religions du monde. Et de plus, la mort est quelque chose qui a toujours intrigué, qui a toujours aussi suscité énormément de curiosité, qui nous a toujours interpellés. C'est une notion, c'est un thème qui parle à chacun d'entre nous, puisque nous sommes tous curieux de savoir pourquoi est-ce que la vie se termine, curieux et en même temps intrigué par le fait que finalement cette vie elle prend fin un jour et par le fait de ce qui se passe après la mort et donc certains ont peur de la mort en elle-même, d'autres du châtiment divin. En tout cas, elle nous fait poser plein de questions à l'intérieur de nous-mêmes, elle nous interroge, elle nous interpelle et nous allons notamment parler également de ce phénomène-là. Et donc, c'est développé à travers le monde les différentes doctrines relatives à la destinée de l'homme après la fin du monde, ce que l'on appelle l'eschatologie. Comme vous le savez, dans l'islam, la résurrection est un principe fondamental. Ça fait partie des racines de la religion du Usuleddin, le Qiyamah, d'accord ? Donc, si nous ne croyons pas au Qiyamah, si nous ne croyons pas au jour du jugement, notre foi n'est pas ferme. Vous êtes d'accord avec moi ? Nous ne sommes pas musulmans si nous ne croyons pas en ces piliers même de l'islam. Et du coup, C'est important de comprendre la résurrection ici, grâce au prophète Uzair al-Islam, comment lui-même a compris, a essayé de comprendre, comment lui-même s'est posé des questions sur la résurrection et a eu les réponses à ces questions qu'il se posait. Donc, notre médialiste de ce soir va répondre à un certain nombre de questions. D'abord, à quelle époque est-ce que le prophète Uzair al-Islam a vécu et pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné la tâche de reconstruire, de rebâtir, de ressusciter finalement la ville de Jérusalem. Nous allons ensuite parler de la croyance juive par rapport au verset que nous avons cité. En quoi et quelle était cette croyance juive selon laquelle le prophète Uzair al-Islam était le fils de Dieu? En troisième lieu, nous verrons comment est-ce que lorsque les juifs du Yémen sont venus voir notre saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, en leur disant qu'eux, ils croyaient que le prophète Uzair al-Islam était le fils de Dieu, comment est-ce que le Rasulallah a réagi? Quelle était sa réponse? Et quels étaient les arguments, quelles étaient les raisons que les juifs donnaient pour expliquer pourquoi ils considéraient Uzair al-Islam comme le fils de Dieu? Puis nous allons voir comment est-ce que la résurrection est traitée dans le Saint-Coran, puisque nous allons voir avant cela comment est-ce qu'elle est vue par l'intermédiaire de la biographie du prophète Uzair. Et puis, nous allons nous interroger sur le jour du jugement, sur le jour du Qiyamah. Est-ce que ce sera l'occasion pour nous de voir Allah subhanahu wa ta'ala? Et est-ce que nous tous, les partisans des Ahlul Bayt alayhi salam, nous bénéficierons de l'intercession des Ahlul Bayt alayhi salam ou bien? Voilà donc un peu les questions auxquelles nous allons répondre. Alors, le prophète Uzair a.s. a vécu 200 ans après le prophète Suleyman a.s. Vous vous souvenez du prophète Suleyman, Salomon dans la Bible, qui avait un très grand royaume, qui était un gouverneur très puissant, un roi qui avait un royaume et qui avait énormément de richesses, qui a construit énormément de choses, etc. Et donc, après le prophète Suleyman, 200 ans après, viendra le prophète Uzair. Et le prophète Uzair était très connu pour sa simplicité, pour ses bonnes manières, et notamment aussi pour sa mémorisation de la Torah. Donc, à cette époque-là, très peu de personnes, depuis que la Torah a été révélée au prophète Moussa, alayhi salam, très peu de personnes, finalement, 4 personnes l'avaient mémorisée. Il s'agissait du prophète Moussa alayhi salam en personne, du prophète Uzair dont nous avons parlé, du prophète Daoud alayhi salam et aussi de quelqu'un qui s'appelle Yusha ibn Nun. Donc 4 personnes qui avaient mémorisé la Torah et notamment le prophète Uzair alayhi salam. Donc il connaissait la Torah dans son intégralité. Si vous récitiez un verset de la Torah et que vous vous arrêtiez, il pourrait poursuivre n'importe lequel des versets. Et justement, cela nous montre à quel point il est important de mémoriser, d'essayer de comprendre, de lire, d'analyser, d'interpréter et aussi de mémoriser les livres divins. Aujourd'hui, nous voyons malheureusement que notre communauté a tendance à abandonner cette pratique. Et donc vous avez d'un côté certaines des écoles islamiques qui continuent à mémoriser le Saint-Coran, mais malheureusement ils oublient ceux qui viennent avec le Saint-Coran, c'est-à-dire les Ahlul Bayt al-Islam. Alors que notre Saint-Prophète, au moment de son décès, il nous a bien dit « Je vous laisse 2 choses en héritage, 2 poids ». Et c'est justement, c'est comme la balance. Il faut qu'il y ait un équilibre entre les deux. D'un côté, le Saint-Coran, de l'autre côté, mais Ahlul Bayt al-Islam. Si vous allez les garder, si vous allez vraiment vous en occuper, alors votre vie sera un succès. Mais si vous allez les abandonner, alors vous serez perdu à jamais. Et justement, il faut qu'il y ait un équilibre dans nos vies entre le Saint-Coran et les Ahlul Bayt al-Islam. Alors, lorsque le prophète Uzair alayhi salam a eu 40 ans, à ce moment-là, Allah subhanahu wa ta'ala lui donne une mission, celle de reconstruire, celle de rebâtir Jérusalem. Pourquoi? Parce que vous vous souvenez, lorsque 200 ans avant le prophète Suleyman avait régné, la ville de Jérusalem était resplendissante. il avait créé un royaume qui était très fort au niveau archéologique, au niveau scientifique, etc. Et qu'est-ce qui se passe après le décès du prophète Souleyman alayhi salam? Il y a des sectes qui se forment, qui se créent, et petit à petit, il y a des personnes qui vont justement détruire tout ce que le prophète Souleyman a construit. Et notamment, vous avez un roi très puissant à l'époque qui s'appelle Nabuchadnezzar, qui justement a attaqué Jérusalem et qui l'a conquis, et justement, Jérusalem est en ruine. C'est pour cela que donc tous les temples juifs sont détruits, toutes les copies de la Torah sont complètement démolies, et c'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala confie au prophète Uzair cette tâche d'aller reconstruire Jérusalem. Et justement, ceci est un exemple pour nous, parce que nous voyons que au moment où il y a une crise dans la communauté, la communauté dans laquelle le prophète Uzair alayhi salam est en train de vivre, connaît une période de crise, comme je vous l'annonce, c'est-à-dire que la terre de Jérusalem est détruite, les temples n'existent plus, sont complètement démolis, le Torah a complètement disparu, et à ce moment-là, le prophète Uzair va aider sa communauté pour que justement toutes ces choses soient rétablies, pour remettre de l'ordre dans ce désordre. Et cela nous montre que finalement, lorsqu'il y a un problème dans notre communauté, c'est aussi de notre rôle d'apporter notre grain, d'apporter ce qu'on peut apporter à la communauté, d'apporter un bout de quelque chose, de notre savoir, de notre, peu importe de ce qu'on peut faire, mais qu'on aide à justement à former une communauté unie, et justement qu'on aide à ce que cette communauté reste comme elle. Et justement, lorsque nous regardons les différentes attitudes par rapport aux personnes qui se trouvent dans la communauté, il y a trois types d'attitudes dans des cas comme cela. Vous avez un premier groupe de personnes qui, lorsqu'il y a un problème, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont abandonner tout le monde, c'est-à-dire qu'ils vont fuir la situation. Ils vont partir, ils vont dire, il y a des problèmes, je m'en vais. D'accord? Et puis vous avez un autre groupe qui va être complètement indifférent, qui va dire, d'accord, il y a ces problèmes-là, eh bien tant pis, moi je viens, je fais ma prière, je fais ce que j'ai à faire, et puis je retourne chez moi, et qui sont donc complètement indifférents aux problèmes qui sont posés dans la communauté. Et puis il y a un autre groupe, comme le prophète Uzair alayhi salam, qui s'implique et qui essaye d'aider, d'apporter sa pierre à l'édifice, comme on pourrait le dire. Alors, que fait justement le prophète Uzair alayhi salam lorsqu'on lui donne une tâche aussi difficile que de reconstruire Jérusalem? Il va quitter sa ferme, il va quitter sa famille, et il va prendre quelques provisions avec lui, du pain, des figues, des raisins, très peu de choses, et puis il va partir sur un âne vers Jérusalem pour justement aller accomplir sa mission. Et lorsqu'il quitte la maison, il laisse donc toute la famille derrière, et il y avait une servante qui avait à l'époque 20 ans. Et ce détail a son importance puisqu'on va retrouver la servante plus tard. D'accord? Donc, le prophète Uzair va donc partir pour cette mission avec ses provisions sur son âne. Et lorsqu'il arrive à Jérusalem, c'est le choc total puisqu'il voit Jérusalem complètement en ruine. Et il se demande comment est-ce qu'il va faire pour justement redresser la situation, pour justement reconstruire toute la ville de Jérusalem, l'état dans lequel cette ville vit. Alors, quand il se remet de ses émotions, qu'est-ce qu'il fait? Il décide de trouver un abri et il le détecte et il trouve une grotte où il va justement se réfugier, où il va rester pendant tout son séjour. Et c'est à ce moment-là qu'un certain nombre de questions commencent à venir dans sa tête, commencent à lui traverser l'esprit, et il se demande finalement comment est-ce que c'est possible qu'Allah subhanahu wa ta'ala va nous ressusciter un jour? Comment est-ce que c'est possible que quelque chose qui est mort, quelque chose qui n'existe plus finalement, qui n'a plus de vie, comment est-ce que c'est possible qu'une vie revienne après cela? Et au moment où il se pose toutes ces questions-là, Allah subhanahu wa ta'ala va essayer de répondre, va vouloir apporter des réponses au prophète Uzair alayhi salam. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est que Allah subhanahu wa ta'ala va lui donner la mort. C'est-à-dire qu'il va rester dans cette grotte, il va finalement mourir dans cette grotte, et il ne se réveillera que 100 ans après. quand il se réveille 100 ans plus tard, Allah subhanahu wa ta'ala envoie un ange près de lui pour éviter que justement il soit choqué après ces 100 années passées à dormir. Mais ce qui est très étrange, ce qui est très étonnant, c'est que après 100 ans de sommeil, finalement, il est vraiment mort pendant 100 ans, et il ressuscite après 100 ans, et quand il ouvre les yeux, il a l'impression d'avoir dormi une demi-journée, voire une journée. Et c'est exactement ce qui va se passer, d'après ce que le Saint-Coran nous raconte, le jour de la résurrection. Le jour de la résurrection, lorsque nous nous réveillerons, nous dirons, si, quand on va nous demander combien de temps vous avez dormi, nous dirons, nous avons dormi peut-être une demi-journée, peut-être une journée, nous ne saurons pas que cela fait des années et des années que nous étions dans cet état-là. Et c'est exactement ce qui se passe. Le fait que l'ange est là pour réconforter le prophète nous montre que Allah subhanahu wa ta'ala envoie de l'aide, envoie du réconfort aux personnes qui lui sont finalement, qui lui sont chères, parce qu'il ne voulait pas qu'il y ait un choc pour le prophète lorsqu'il comprendra, lorsqu'il se rendra compte qu'il est resté 100 ans dans cet état de décès, de mort. Et donc, quand il se réveille, il a l'impression d'avoir dormi très peu de temps. Et lorsqu'il regarde les fruits qu'il avait amenés, les provisions qu'il avait amenées, il voit que les fruits sont encore frais. Et du coup, il ne se doute absolument pas que cela fait vraiment 100 ans qu'il s'est endormi. Mais l'ange lui dit que non, ça fait 100 ans que tu étais mort et que tu es ressuscité. À ce moment-là, le prophète Uzair, ce qui est un peu logique, est curieux et il veut avoir des preuves, il se demande, il veut avoir des preuves de ces 100 années d'absence. Et à ce moment-là, l'ange lui dit, regarde vers ton âme et tu comprendras très vite. Et quand il regarde vers son âme, il voit que son âme est non seulement décédée, mais en plus son corps est dans un état de décomposition très avancé. Ce qui prouve bien que cela fait déjà des années et des années qu'il est décédé, etc. Et à ce moment-là, il comprend que finalement, Allah subhanahu wa ta'ala lui a montré, lui a prouvé comment est-ce qu'on peut mourir et ensuite revenir à la vie, grâce à sa propre expérience. Et bien sûr, une fois qu'il a expérimenté lui-même la résurrection, quand il doit retourner chez les siens, c'est une autre histoire de leur expliquer à eux ce qui s'est passé et de leur expliquer ce qu'est la résurrection. Ça, c'est une autre histoire, ce n'est pas une mince affaire, comme vous pouvez vous en douter. Lui-même, il a expérimenté la chose, mais les autres en face de lui ne l'ont pas expérimenté la chose. Un jour, notre cinquième imam, alayhi salam, a reçu un chrétien. Un chrétien est venu voir notre cinquième imam, alayhi salam, et lui a demandé quels sont les frères, deux frères jumeaux, qui sont morts l'un à 150 ans et l'autre à 50 ans, alors qu'ils sont morts, ils sont décédés le même jour. Donc, ils sont deux frères jumeaux, donc s'ils sont jumeaux, c'est-à-dire qu'ils sont nés en même temps. Et ensuite, il y en a un qui décède à 150 ans et l'autre qui décède à l'âge de 50 ans, mais pourtant, ils décèdent le même jour, la même année, etc. Et à ce moment-là, notre cinquième imam dit qu'il s'agit justement du prophète Uzair, alayhi salam, et de son frère jumeau qui s'appelait Aziz. Puisque le prophète Uzair, alayhi salam, à l'âge de 40 ans, quand il a eu la mission d'aller construire Jérusalem, d'aller rebâtir Jérusalem, il avait 40 ans, et là, il va mourir, sa vie va s'arrêter pour 100 ans. Et ensuite, quand il va ressusciter, il va vivre 10 années de plus. D'accord ? Donc finalement, il va vivre en tout 50 ans, mais coupé avec 100 ans de mort. Alors que son frère jumeau, il est resté vivant pendant ses 150 années. Donc tous les deux sont décédés à la même date, mais un avait 150 ans et un avait 50 ans. Alors quand le prophète Uzair, alayhi salam, retourne dans son village, à ce moment-là, bien sûr, personne n'arrive à croire, vu ces nombreuses années d'absence, personne n'arrive à croire qu'il s'agit bien du prophète Uzair alayhi salam. Et donc, il doit prouver qu'il est bien le prophète Uzair alayhi salam. À ce moment-là, comme il avait lui-même construit une maison, il indique, il donne les indices concernant sa maison, et il dit, voilà, je suis Uzair, et voilà, la maison que j'avais construite se trouve à tel endroit, et de telle façon, etc. À ce moment-là, les habitants du village se rendent compte qu'en effet, Uzair avait pris cette maison-là, elle était bien à cet endroit, etc. Elle est bien comme elle était décrite. Et d'ailleurs, il lui annonce que nous avions gardé votre maison en tant que relique, en tant que souvenir de votre passage ici sur la terre, puisque, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le prophète Uzair était très apprécié par la population locale.